Hello! Aujourd'hui, dans l'Instant Ciné, on parle du film Le Successeur, en compagnie de son co-scénariste et réalisateur, bonjour Xavier Legrand.
Bonjour.
Et de son acteur principal, Marc-André Grondin, bonjour.
Bonjour.
Alors, peut-être pour commencer, en quelques mots, Le Successeur, de quoi ça parle?
De quoi ça parle, c'est l'histoire d'Elias Barnes, qui est un jeune homme québécois, qui s'est établi en France et rien ne le prédestinait à ça, mais sa volonté et sa passion aussi pour la mode fait qu'il devient le nouveau directeur artistique d'une maison de haute couture française. Et à ce moment-là, le jour où il présente sa première collection au sein de la maison, il reçoit la nouvelle que son père, qui vit au Québec, est décédé et il doit retourner au Québec pour organiser les obsèques, gérer la succession. Et il pense partir quelques jours parce que pour lui, c'est un peu une anecdote. Il a rompu avec son père depuis très longtemps, donc il doit le faire parce que c'est le fils, le seul héritier. Et en fait, il ne va pas pouvoir rester que 3 jours parce que l'héritage qu'il découvre est beaucoup plus sombre et lourd que ce qu'il imaginait.
Alors, le scénario est librement inspiré du roman « L'Ascendant » d'Alexandre Postel, qui était sorti chez Gallimard en 2015. Comment avez-vous fait la rencontre de ce texte et qu'est-ce qui vous a donné envie de le porter à l'écran, Xavier ?
Alors, la rencontre a été très... vraiment par hasard. Je me souviens, j'étais en vacances en Espagne et je l'ai découvert à sa sortie. Donc, il est sorti en 2015, c'est-à-dire que je l'ai découvert et lu avant de tourner jusqu'à La Garde. Et donc, j'ai été assez éberlué et très inspiré et intéressé par ce que lapsus révélateur, parce que le livre racontait, mais effectivement à l'époque j'avais pas du tout les velléités d'en faire une adaptation pour le cinéma. Et comme dans Jusqu'à la Garde, c'est du patriarcat dont il est question et qu'il est très clair que le patriarcat écrase les femmes et les enfants, je voulais aussi montrer que le patriarcat écrase les hommes, c'est-à-dire comment on hérite de cette injonction, les hommes, nous, à la virilité, à la domination, à la puissance, comment elle se transmet de génération en génération. Et le livre est revenu à ma mémoire en me disant, tiens, alors c'est assez extrême, mais en même temps, c'est symboliquement intéressant d'avoir ce terreau-là pour raconter ça. Voilà.
Alors, c'est intéressant que vous parliez de votre précédent long-métrage « Jusqu'à la garde » et du fait que vous ayez découvert le roman au même moment, parce que moi, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de ponts à faire entre les deux films. Est-ce que vous voulez en dire un mot ?
Oui, bien sûr, oui, il y a un pont, il y a un fil rouge. C'est sûr que le patriarcat est quelque chose, je trouve, c'est un régime terroriste, on pourrait dire, qui est ancestral et dont on prend vraiment conscience maintenant, mais qui est quand même bien ancré dans notre société et dans notre culture. Et effectivement, il y a la terreur, il y a la peur. Certains disent l'épouvante et l'horreur dans le genre du film. Et là, il est plus question d'une épouvante, j'ai envie de dire même cauchemardesque, infernale, catastrophique, c'est ce qui se passe pour Elias. Et donc effectivement, je vais dans le plus sombre des enfers.
Alors dans les thèmes en filigrane des deux films, il y a aussi la question de la famille, des liens du sang peut-être.
Oui, tout à fait. Oui, le patriarcat. Donc il y a encore une parentalité toxique et notamment une paternité toxique et le lien de sang qui est beaucoup plus fouillé dans ce film Le Successeur parce qu'il est question d'héritage, il est question de lien de sang qui est un lien qui est dit sacré, qui a même constitué notre façon de nous construire et qui aussi est un lien qui est, quoi qu'on veuille faire, il est irrésiliable, c'est-à-dire qu'il est définitif. C'est exactement ça que traite le film et c'est ça aussi qui peut nous déranger.
Peut-être parlons du personnage que vous venez d'évoquer un peu. Là, je me tourne vers Marc-André Grondin qui l'interprète. Que pouvez-vous nous dire sur lui ? Est-ce que vous pouvez nous présenter ce personnage ?
Elias est en fait Sébastien, un Québécois qui a grandi en banlieue de Montréal. Il décide de rompre les liens avec sa vie québécoise, aspire à être quelqu'un d'autre, à atteindre un autre niveau social aussi et décide de partir, traverser l'Atlantique, refaire sa vie à Paris en prenant l'accent français, en changeant son prénom, en se créant une image à l'intérieur d'un milieu qui est basé aussi sur l'image, le milieu de la mode. Et au fur et à mesure qu'il découvre certaines choses, ben il y a un choc et son personnage d'Elias s'effondre. C'est quelqu'un d'angoissé, c'est quelqu'un qui a peur. La première séquence du film déjà le montre. Il a peur pendant le défilé de mode. C'est quelqu'un d'anxieux, qui a peur de la mort, qui a peur de mourir, qui a peur d'avoir hérité de quelque chose de son père. Et il a hérité quelque chose de son père.
L'héritage, la maison et le fameux secret qu'on ne dévoilera pas. Alors, c'est un personnage qui est extrêmement complexe parce qu'il passe par des états et des émotions qui poussent très loin le curseur. Comment on aborde un personnage comme ça ?
Écoute, je pense qu'il y a une partie de moi qui s'était préparée à jouer des scènes demandantes émotionnellement, physiquement. Mais quand le tournage a commencé, je me suis rendu compte que c'était au-delà de ce que j'avais imaginé. Ce qui est très déstabilisant et très grisant aussi d'avoir un réalisateur qui ne va pas se satisfaire de la première lecture que tu fais, puis du premier jet, qui va te demander toujours d'essayer d'aller plus loin, de te déstabiliser un peu. De façon très douce, évidemment. mais il m'a accompagné dans cette descente aux enfers qui a été très, très agréable aussi, malgré tout. On a eu beaucoup de plaisir, mais il y avait beaucoup d'abandon et de confiance parce que ouais, tu viens à jouer des choses qui sont des émotions, des réactions qui ne sont pas les tiennes, mais qui sont très intimes d'une certaine façon aussi. Donc, il faut jouer comme si personne ne te regardait.
Alors, peut-être, là, je me retourne vers le réalisateur qui vous a dirigé et qui est lui-même acteur. Est-ce que ça change le regard sur la façon dont on travaille avec son casting quand on est acteur ?
Oui, c'est sûr que le fait d'être acteur fait que je sais par quoi ça passe, comment ça passe, quels mots, quel vocabulaire il faut... donner ou quelle piste il faut engager pour aller trouver quelque chose. Je sais aussi que pour donner autant d'émotions, autant de choses intimes, fortes, radicales, il faut se sentir en confiance et en sécurité. Je suis partie prenante du fait qu'on ne peut pas dénoncer la violence en usant de la violence. Donc, plus le tournage est et sécurisé et confortable, plus l'acteur n'a pas d'appréhension à donner énormément dans ce qui est des choses physiques, qui sont les cris, les pleurs, se faire pipi dessus. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'extrême de ce que le corps humain est capable de produire. On est, faut le rappeler, des animaux. L'émotion peut nous donner des sons. On a la capacité vocale de faire des sons qu'on ne fait jamais parce que on est socialisé. Mais et donc pour pouvoir faire ça, il faut que l'acteur, n'aie pas peur d'être ridicule, et il ne le sera pas si il a la possibilité de rêver là-dedans et que tout est possible. Voilà.
Alors, à quel moment votre choix s'est porté sur Marc-André Grondin ? Comment la rencontre s'est faite ?
Elle s'est faite en plusieurs étapes. En fait, je connaissais Marc-André, bien évidemment, par ses films. Et puis, ayant tourné avec Denis Ménochet, et Denis Ménochet ayant tourné aussi avec Marc-André, m'a dit « Ah, je viens de tourner avec Marc-André Grondin, c'est vraiment un acteur avec qui tu t'entendrais bien dans le travail, vu comment tu travailles, vu comment lui travaille. » Et j'ai dit « Ah oui, d'accord. » Et en même temps, je crois que j'étais en écriture et je commençais à envisager que finalement, parce que c'est une libre adaptation et c'est moi qui choisis de le mettre au Québec, Donc ça commençait un peu à naître dans ma tête. Et de son côté, Marc-André, lui, donc du coup aussi, a entendu parler de moi par l'intermédiaire de Denis, avait vu Jusqu'à la garde et je crois l'avait beaucoup aimé. Et en fait, par un concours de circonstances, de façon très informelle, on s'est retrouvés à prendre un café ensemble. On a parlé, on s'est rencontrés. J'ai évoqué plus ou moins que j'avais quelque chose en écriture qui effectivement se passait au Québec, mais sans, voilà, parce que j'étais encore pas sûr du film. Et voilà, et au bout d'un moment, quand le personnage s'est clarifié aussi, parce que j'étais peut-être parti tout au début sur une autre masculinité, hein, puisqu'il était directeur artistique d'une maison de mode, j'étais parti dans le cliché de quelqu'un peut-être plus sophistiqué, peut-être de plus efféminé, comme on a un peu l'habitude de voir. Et comme je voulais un peu déconstruire justement l'image d'un personnage masculin fort, parce que les personnages masculins au cinéma sont n'ont pas peur, ou sont courageux, sont des sauveurs et ne se font pas pipi dessus. Je me suis dit, en fait, c'est plus intéressant de montrer peut-être une masculinité plus simple, plus virile. Et voilà, et donc Marc-André, du coup, forcément, a collé à ce nouveau personnage que je voulais produire. Voilà.
Et Marc-André, vous vous êtes laissé embarquer directement? Comment ça s'est passé?
Pour être franc, quand Xavier Legrand a envie de travailler avec toi, tu dis oui, même à la limite sans avoir lu, mais oui, en fait, moi j'étais un peu vendu d'avance, même si j'étais tétanisé, et je suis resté tétanisé jusqu'à la fin du tournage par Jusqu'à la garde. Pour moi, Jusqu'à la garde, et il y a tellement des belles performances, je voulais vraiment que Xavier soit content de son choix, de ce qu'il faisait avec moi, puis j'ai tellement de respect, puis je suis tellement admiratif de Denis, et je lui dis, là, il a tellement fait une prestation extraordinaire dans Jusqu'à la garde, je me dis, là, on est ailleurs, évidemment, mais j'ai envie quand même qu'il soit satisfait, mais quand j'ai lu le scénario, moi, je connaissais rien, j'étais comme le public l'est maintenant. Je crois qu'il regarde un film sur un deuil qui va se développer éventuellement. Et j'ai eu un choc, comme tout le monde a un choc en voyant le film. J'ai été déstabilisé, puis charmé aussi d'être déstabilisé, parce que c'est rare qu'on lit un scénario ou qu'on voit un film. C'est rare de vivre des émotions. C'est rare de vivre des émotions physiques. Puis même, je lisais certaines scènes, puis je bougeais sur ma chaise, j'étais... Et c'était juste la lecture. Donc ouais, c'est un beau cadeau. Puis j'ai eu l'occasion de toucher à des films qui étaient un peu plus des films de genre et tout ça. Puis le successeur, ça ressemble à rien. C'est pas un film de genre, mais c'est un film de genre aussi... J'ai l'impression qu'on peut y trouver tout ce qu'on désire dans le successeur.
Comment le fond a influé sur la forme?
Tout démarre d'une image très forte, très symbolique, qui est la spirale. C'est le premier plan du film. C'est aussi, on peut dire, le mouvement organique du thriller, ou en tout cas quand l'étau se resserre, plus on avance et qu'il n'y a pas de retour possible. C'est aussi, bien évidemment, la spirale infernale, mais c'est le labyrinthe de Dante, les enfers de Dante, c'est tout ça. Et donc, du coup, il y a beaucoup comme ça de circulation de la caméra, notamment déjà par le fait que ce soit la scénographie du défilé de mode que Elias fait, où on suit les mannequins et ensuite on le suit lorsqu'il salue son public. Il y a quelque chose de vertigineux, quelque chose qui ne s'arrêtera jamais. J'ai aussi cette image de la machine à laver en mode essorage, c'est-à-dire inviter le spectateur à être comme même aussi un hamster qui va s'essouffler parce que le film est éprouvant. Donc voilà, et effectivement, il y a un retour de ce mouvement de caméra à des endroits bien définis. Une question aussi de trouver la bonne distance par rapport à l'horreur, ou en tout cas au cauchemar. c'est-à-dire de trouver le bon endroit pour être témoin de ça sans mettre le nez du spectateur dedans, où on tomberait dans quelque chose de plus ridicule, d'obscène ou de malvenu. Donc c'est tout ça, mais c'est les questions que je me pose dès l'écriture, en fait. C'est où je mets le spectateur, à quelle place je l'invite à s'asseoir, quoi.
Et est-ce que vous en échangez avec votre directrice de la photographie? C'est le troisième film, je crois, que vous faites avec Nathalie Durand, qui avait d'ailleurs été récompensée pour son travail. Est-ce que ça fait partie des échanges que vous avez ensemble? Vous avez une idée très claire de ce que vous souhaitez dès le début. Est-ce que vous en échangez également avec vos acteurs?
Oui, bien sûr, on fait tout un travail de préparation avec Nathalie, surtout on fait les repérages des décors. Moi, je fais toujours un pré-découpage, même avant d'avoir vu les décors, c'est-à-dire qu'il y a quand même une façon de comment je veux mettre en scène telle scène, telle séquence, et je la réadapte lorsque le décor est plus contraignant, ou alors je le valorise encore plus quand le décor le permet. Donc tout ça, on fait ce travail ensemble, on en discute beaucoup. Elle me propose aussi des choses qui quelquefois sont encore mieux que ce que j'imaginais, et puis quelquefois des choses, je dis non, c'est surtout pas ça qu'il faut faire. Nathalie, c'est une directrice de la photo qui est très proche du jeu des acteurs. Elle a un sens vraiment de la fiction. Elle n'est pas là pour faire que des belles images. Elle a envie de faire des images qui racontent quelque chose et qui viennent soutenir le jeu. Et donc, du coup, elle a quelquefois tendance, parfois, à instinctivement aller plus près. Et moi, souvent, je lui dis, ah non, il faut un tout petit peu reculer. Et donc, puis quelquefois, elle a raison. Quelquefois, elle a raison, parce que du coup, je me dis, ah, je voulais peut-être être plus loin, mais là, on peut se permettre d'être plus près. Et donc voilà, et effectivement, je crois quand même que je communique avec les acteurs sur comment je filme les choses. Je leur explique qu'il y a un mouvement de caméra, pourquoi, à quel moment je vais couper, ou à quel moment on va reprendre la scène, mais d'un autre axe. Je trouve ça très important.
Marc-André, peut-être un témoignage.
Ben, en fait, c'est parce que je pense que c'est... Il n'y avait pas vraiment le choix de me mettre au courant des plans, parce que au final, ben, la scène, c'est la caméra et moi. J'ai pas d'autres partenaires. Quand il y a juste la caméra et moi, ben, j'ai pas le choix. On n'a pas le choix de savoir ce que l'autre fait. Donc on s'écoutait beaucoup parce que c'était un peu ma partenaire, Nathalie, d'une certaine façon. Puis les scènes sont longues aussi, à certains moments. Donc, on partait pour... La caméra me suivait, elle m'accompagnait. C'est tellement demandant physiquement qu'il fallait bien se comprendre pour bien anticiper les mouvements, pour pas en faire 10 prises avant que la technique soit bonne.
Alors justement, en fait, on parle souvent du montage comme de la troisième écriture du film. Effectivement, vous posez vraiment vos scènes, vous prenez le temps d'observer vos personnages. Est-ce qu'il y a un travail qui se fait aussi avec votre monteur, avec qui vous êtes habitué à travailler également?
Oui, bien sûr. Et on travaille un peu à l'envers avec Yorgos, que d'habitude on fait. En général, on peut faire un bout à bout du film, et puis en montage on va décider d'écourter, de rythmer telle scène, de couper les séquences. Et là, en fait, Yorgos, lui, il découpe le film en plusieurs parties, il travaille par parties pour arriver à un bout à bout, mais qui est, on va dire, l'éloge de la frustration. C'est-à-dire qu'il coupe, voire il y a des séquences qu'il supprime pour nous frustrer vraiment, où j'ai vraiment... Ça nous manque, et donc du coup on le rajoute. Et c'est pour ça que ça nous permet de rajouter du temps, de laisser une tension s'installer parce qu'on en a besoin, et pas juste parce qu'on fait un plan séquence. En tout cas, moi je pense qu'un plan séquence peut être aussi long qu'il peut être s'il se passe toujours quelque chose et qu'il y a une évolution. Donc c'est comme ça qu'on travaille, ouais.
Alors, la tension n'est pas créée que par les choix de l'image, elle est aussi créée par la bande sonore, qui est évidemment très importante au cinéma. Souvent, les films où on cherche à provoquer l'angoisse ou la tension, c'est souvent la musique qui l'accompagne. Et vous, il y a très peu de musique dans votre film, comme c'était le cas sur vos précédents. Mais par contre, il y a une attention qui est très particulière au bruit environnant, au silence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre démarche?
Oui, bah c'est juste que chaque bruit, le vrai silence n'existe pas. que chaque bruit est une partition. On peut trouver, effectivement, c'est des choses que je... dès mon court-métrage, hein, une ceinture de sécurité qui n'est pas attachée, jusqu'à, voilà, le son off, c'est vraiment quelque chose, je trouve... Ça, c'est en ça où, quelque part, ça peut un petit peu rejoindre le développement de l'imaginaire qu'un lecteur a devant un roman, où il se fait un peu son image de ce qui se passe à côté, et je trouve que ben, le silence est juste... donner des indices sur le concret de la vie. Moi, je suis très sensible au bruit. J'adore la radio, notamment les fictions radiophoniques. J'en ai même fait moi-même en tant qu'acteur et je trouve ça fascinant comment on arrive à faire exister un lieu avec des bruits. Le bruitage, c'est un moment que j'adore. Donc, c'est vrai que je préfère utiliser ça que d'aller... En fait, une musique pour moi ne doit pas être un sentiment. Une musique doit être une actrice, doit être un élément narratif. À partir du moment où une musique vient m'indiquer, il faut que tu aies peur, ou vient mettre un peu de violon, ou là tu es ému, il faut que tu pleures. Moi, je ne vois plus de cinéma. Je vois quelqu'un qui n'a pas confiance à ma capacité d'interpréter les choses.
Alors, parmi les choix de mise en scène, il y a aussi ceux des costumes, coiffures, maquillage. Qu'est-ce que le look du protagoniste nous raconte sur lui, potentiellement ?
Je ne sais pas qu'est-ce que ça raconte. Ça raconte un déracinement d'une certaine façon, parce que je crois que visuellement, quand il revient, il est un peu l'anomalie sur cette rue. On dit au Québec, il fit pas dans le décor. Mais c'est un mec de la mode, comme beaucoup de directeurs artistiques, c'est pas quelqu'un de flamboyant dans son look, c'est quelqu'un d'assez sobre. Qui est un créateur et qui ne crée pas nécessairement sur lui-même. Donc, il y avait des références de créateurs qui ont existé, qui existent encore, qui c'est bien noir. Puis, mais oui, je crois que ça raconte surtout un déracinement, le clash qu'il y a entre son look à Paris, où on ne le remarque pas son look à Paris, mais on remarque son look quand il est rendu au Québec. Genre de manteau, on voit pas ça à Repentigny, où on a tourné, en banlieue de Montréal.
Et puis, il porte des couleurs sombres. Moi, je trouve que dès le début, ça annonce quelque chose. Mais peut-être que je surinterprète, là.
Ah non, mais c'est intéressant. Il y a le noir, effectivement. Le noir, c'est l'élégance. Puis, c'est aussi une façon de s'effacer. Le noir, c'est la discrétion. Mais il y a le noir du deuil. Je vois beaucoup de rapports entre la mort et la mode, entre le podium et le crématorium, entre un défilé et une cérémonie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose entre le début et la fin qui se font écho. Et dedans, c'est comme si, oui, il était déjà en deuil. Mais en même temps, c'est un créateur qui s'habille en noir et ça n'a rien du tout d'original.
France, Canada, deux univers visuels et d'environnement extrêmement différents. C'était pour vraiment marquer le coup du déracinement.
Ouais, tout à fait. Un transfuge, même, j'ai envie de dire, bien sûr, de classe, parce qu'on découvre que finalement, il vient d'une banlieue de Montréal, mais aussi un transfuge géographique, un transfuge de culture, c'est-à-dire que le Québec est quand même une culture nord-américaine, même si on a la même langue, même si on est vraiment cousins sur plein de choses, il y a un mode de vie qui est différent. On voit bien que les architectures sont très différentes. Mais c'était aussi parce qu'il fallait qu'il soit éloigné, qu'il ait vraiment mis un océan avec son passé. Et je voulais quand même aussi que ça reste francophone. C'est pour ça que j'ai choisi le Québec. La Suisse ou la Belgique, ça aurait pu se passer là-bas, mais c'était trop près. En Bruxelles, on y est en 1h30 de TGV. Là, il y a quand même un décalage horaire. Et ça, c'est intéressant aussi. Puis il y a un accent. Donc, oui.
Alors justement, est-ce que tous les deux, vous avez eu l'occasion de tourner au Canada et en France ? Est-ce qu'un tournage est différent entre les deux pays ?
Non, il y a des petites différences, mais qui sont anecdotiques. C'est-à-dire que les temps de tournage sont plus longs, mais ça, à la méthode nord-américaine, les tournages sont de 12 heures, nous on ne dépasse pas 8 heures. J'ai plus trop la mémoire, mais il y a certains postes qui ne s'occupent pas forcément des mêmes choses que les équipes en France, au niveau des accessoires, du décor, bon voilà. Mais sinon, non, il y a la même organisation. Je peux juste aussi noter peut-être que, plutôt Nathalie qui, elle, serait plus à même d'en parler, mais ils ont peut-être une façon d'anticiper le pré-light. c'est-à-dire de l'installation de la prochaine scène, parce qu'ils sont plus nombreux, les équipes sont plus nombreuses, donc il y a la possibilité qu'une autre équipe s'occupe du prochain plan pour gagner du temps, alors que nous, on va plutôt être sur un temps de tournage plus long avec moins de gens. Voilà. C'est vraiment des choix, en fait, de production, mais sinon, l'organisation est la même.
Et Marc-André, vous avez noté, vous, des différences entre les deux ?
J'ai toujours dit, il y a souvent plus de différences entre deux plateaux français qu'entre un plateau français puis un plateau québécois. Au Québec, l'équipe était québécoise, belge et française, et tout le monde bossait ensemble comme si c'était leur troisième film ensemble. Donc, ça a super bien été, il y avait une belle communion, mais je crois qu'il y avait aussi le bon groupe. Je crois que Xavier s'entoure de gens qui sont bien, des gens respectueux, des gens travaillants, des gens qui sont passionnés par ce que lui fait. Parce que au final, on est tous là pour l'aider à raconter son histoire.
On a dit que le film était à la croisée de plusieurs genres cinématographiques. Quelles ont été vos sources d'inspiration et influences ? Quel film vous aviez en tête ?
C'est difficile de répondre concrètement à cette question. Effectivement, il y a des plans, mais c'est limite des plans qu'on a vu dans plein de films parce qu'ils répondent à un code. On peut dire Misery, Psychose, voilà. Vertigo aussi, pourquoi pas. Mais sinon, après, il y a une sorte... le curseur extrême, alors ça n'a rien à voir parce que là, c'est un film fantastique dont je vais parler, c'est Mother d'Darren Aronofsky, qui se permet d'aller loin dans l'extrême, le curseur de ce qui est le plus terrible. Donc là, moi, mon film est très concret et quand même très réaliste, même si on va dans des affres extrêmement obscures et dérangeantes. Oui, c'est de ne pas avoir peur à se plonger, en fait, dans les enfers, quoi. Et c'est vrai que ce film, moi, m'avait fasciné. C'est vraiment un film que j'ai pris dans le corps. Et je pensais beaucoup à ce film et pendant l'écriture. En général, je pense aux films de référence et quand je les écris. Parce que quand j'écris, j'ai déjà ma mise en scène. J'arrive pas à écrire une histoire et ensuite me poser la question de comment je mets en scène. C'est dès le début, ça fait partie de l'écriture. Donc c'est vrai que tous ces films peuvent venir m'inspirer. Mais après, une fois qu'on est dans le tournage, le choix des décors, le cadrage et tout, c'est quelque chose auquel je ne pense plus. Ouais.
Moi, j'ai eu aucun référent, vraiment. J'ai rien regardé. Le seul truc, en fait, qui, pour moi, était important de faire, c'était de voir un peu, même si c'est une petite partie du film, mais de voir un peu comment ça se passait dans des maisons de haute couture. Donc, j'ai regardé deux docus. Pour voir un peu, voilà. Mais c'est tout.
Un grand merci, Xavier Legrand, réalisateur du film Le Successeur, et Marc-André Gondin, acteur principal. Et merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de l'Instant Ciné pour Radio G. Bonne soirée.
Au revoir, merci.